plainte ni commentaire, puisqu'elle vivait sans oreille pour les recueillir. Mais la Mimi Cathée, toute puissante et insensée qu'elle fût, ne pouvait rien contre les signes grisâtres qui marbraient désormais pour elle les pages du journal. Le spectacle du monde lui était retiré, et cela lui sembla si insupportable qu'elle demanda à Nicole, elle l'intraitable Mimi Cathée, de venir lui donner lecture, une fois par jour, à l'heure de sa convenance. L'affaire fit grand bruit. L'irréductible Mimi Cathée avait refusé l'aide ménagère proposée par la commune, mais s'apprêtait à rémunérer les services d'une lectrice. 1 heure par jour et 6 jours par semaine, Nicole, qui en plus de 20 ans de voisinage, n'était jamais entrée chez la Mimi Cathée, raconta la tenue parfaite de la maison et sa nudité, qui la changeait des invraisemblables capharnaüm crasseux qu'elle découvrait parfois chez d'autres navrés de la vieillesse dont elle avait à s'occuper. Des vieux garçons, il est vrai, pour la plupart ensauvagés de solitude et de boisson après la mort des parents, en 4 ans et 8 mois de service chez la Mimi Cathée, jamais Nicole n'eut à donner le moindre coup de palais, chiffon ou éponge, ni à pallier par un achat anodin un éventuel oubli auprès du père Lannemais, l'épicier boulanger ambulant dont la Mimi était une infaillible cliente. Chaque jour, entre 11 heures et midi, Nicole trôna dans la cuisine basse et sombre sous le rond de la suspension réglable armée d'une ampoule de 100 watts, auréolée de lumière, nimbée. Elle énonça les menaces sur les prix du baril de pétrole brut, les attentats du 11 septembre, ceux de Madrid et ceux de Londres, la redoutable poussée des Chinois sur le marché du textile et les atermoiements du Parti socialiste dans l'investiture de son candidat pour la présidentielle de 2007. Saoule sous l'avalanche, étourdie par la rumeur des pays innombrables, elle quittait à midi la Mimi Cathée qui la saluait d'un invariable « Merci, Nicole, à demain, Nicole » ou « À lundi, Nicole ». Un matin de février, il avait neigé, il neigeait, il neigerait. Nicole s'étonna, à son arrivée, que les volets de la cuisine fussent fermés, déjà vêtus, le lit fait et les cheveux ramassés dans son immuable chignon gris. L'impériale Mimi était tombée au sortir de sa chambre et gisait, longue et blanche, pas encore tout à fait froide. On l'enterra en maigre comité. On ne lui connaissait pas de famille, et l'on ne vit personne, ni à l'église, ni au cimetière. Nicole trouva dans la chambre, sur le marbre de l'unique commode, une enveloppe non cachetée, garnie d'une somme qui couvrirait au plus juste les frais d'obsèques dans le caveau familial depuis longtemps délaissé. La maison se ferma, elle ne fut ni visitée ni vendue, et l'on s'habitua à ce surcroît de mystère autour de la Mimi Cathée. Il se dit ensuite dans le pays que cette fois, la Nicole, qui savait y faire avec les vieux, n'aurait rien attrapé, elle en eut vent, en fut dulcérée au-delà du raisonnable, et comme ravagée, ruminant la chose sans en épuiser le fiel, au point que Paul, au long de l'hiver qui suivit, put mettre sur le compte de cette déplorable affaire une partie de l'aigreur manifeste de sa sœur à l'encontre du monde en général, et, en particulier, des 2 intrus par lui introduits dans le royaume clos de Fridières. Pour le 1er Noël, Annette avait fait venir sa mère. Elle passerait à Fridières la fin de l'année et les 2 premières semaines de janvier. Ils étaient allés la chercher, les 3, à la gare de Neussarp, le 1er lundi des vacances scolaires. Le soir, après la traite, dans une nuit molle et mouillée, Eric s'était avancé sur le quai battu de vent presque tiède, avait brusquement couru, reconnaissant la silhouette menue, la Norac beige, dans un petit groupe de voyageurs qui attendaient le départ du train pour traverser la voie. On s'était saisi, embrassé sans parole, les 2 femmes, la grand-mère et le garçon. Paul, s'emparant d'aussitôt du sac et de la valise, bredouillant des questions émêlées sur le voyage, les changements dans les gares, à Lille, à Paris, à Clermont, il s'y perdait, embarrassé devant cette femme pâle, qu'il ne savait pas comment nommer, et n'avait vu que très brièvement 2 ou 3 fois en chemin, au moment du déménagement. Dans la voiture, Eric, soudain volubile, avait déroulé la liste impeccable des horaires de départ et d'arrivée, caractéristiques notables et numéros, des 4 trains successifs empruntés par son héroïque grand-mère, curieux de savoir combien avait duré et coûté le trajet en taxi entre les 2 gares, gare du Nord et gare de Lyon. Il avait brandi un plan du métro parisien imprimé sur Internet au collège et expliqué comment, avec un seul changement à Châtelet, on pourrait à l'avenir éviter une telle dépense et perte de temps. À cette abondance de paroles, à cet élan qui le plaquait contre le siège sur lequel elle avait voulu que sa mère prît place à l'avant à côté de Paul, Annette mesurait combien Eric, depuis 6 mois, taisait le manque cuisant de cette présence douce, le rituel coup de téléphone du dimanche matin, une poignée de cartes postales, le viaduc de Garabit, 2 vaches salées devant une fontaine ronde, le puits Méry, deux ou trois paquets venus de Bailleul au moment de l'anniversaire ou de la rentrée n'avaient été, ne pouvaient être que de maigres substituts. Il avait tenu, sans elle, qui avait supporté aussi, soudain privée séparée, comme jamais encore elle ne l'avait été, aussi radicalement, par des kilomètres énormes, des épaisseurs de terre, de routes de nuit, de bois devant, du seul petit-fils, de l'enfant de son sang. De ces choses, elle ne dirait rien. Elle ne parlerait pas, mère et fille, rassemblées dans la cuisine, aux bonnes heures partagées de l'après-midi, le lendemain et les jours suivants, préparant des truffes au chocolat praliné et autres simples merveilles de Noël, nourrissons, et plus tard encore,